culture. Bouillon de lecture, eh bien vous avez rendez-vous tout cet été avec Mara, Robert, Setlieu, Enrique, Bruce, Clotilde, le breton Florard, Pâle et les autres, dans ce livre qui s'appelle « Le vestibule des causes perdues » de Manon Moreau. Nous en sommes aujourd'hui à notre 8e émission.
Déjà. Eh oui, je ne vais pas dire qu'on en a plein les bottes, mais heureusement qu'on a passé les Pyrénées. Voilà. Hein.
Ah oui, là, on a plus qu'à rouler à des
cendres. Mal au guibol.
Ah oui, un peu.
Qui commence aujourd'hui ?
C'est moi.
Eh bien, allons-y.
Pluie sur Pampelune. Mara n'était pas entrée dans l'Arasoagna. Elle avait continué le chemin pavé de blanc et d'une envie d'avancer plus encore en Espagne. Elle dormirait peu avant Pampelune. Une longue étape. Le pays était à elle, une joie sauvage guidait ses pas. Le chemin étroit dans la forêt, le long du ruisseau. Mara écoutait les bruits, l'eau, les odeurs de baies. Au hameau d'Ilaras, un pèlerin remplissait sa gourde à la fontaine. Mara passa à pas de loup sans se faire remarquer. Elle voulait marcher seule, elle voulait le chemin pour elle. L'autre était de dos, penché au-dessus de l'eau et ne se retourna pas. Elle fila à l'anglaise. Arpad non plus n'avait pas vu Mara, occupée à déchiffrer les criteaux apposés sur la fontaine. « Agua potable ». Il ne l'avait même pas entendu arriver. Il avait trop soif pour tergiverser et remplit sa gourde en croisant les doigts pour ne pas mourir empoisonné. Seul dans ce pays étranger dont il ne parlait pas la langue. La veille, il était arrivé écrasé de fatigue à Roncevaux et s'était endormi aussitôt dans l'immense dortoir au mur froid, sans manger, sans s'attarder. La traversée des Pyrénées avait été éprouvante. Il n'avait aucune idée du nombre de kilomètres à parcourir et essayait de ne pas perdre de vue les autres pèlerins jusqu'à ce que sa chaussure le lâche. Au milieu des montagnes, le froid et le vent, sans personne à ses côtés, personne ne l'attendait nulle part. Il aurait bien pu rester là, mourir là, nul ne savait où il était. Lui-même ignorait s'il était encore en France ou déjà en Espagne. Et puis ce petit homme moustachu était arrivé, Roberto, et il avait tout réparé. La chaussure d'abord, le vagalame ensuite en escortant Arpad jusqu'à l'étape. Là, dans ces grands murs de Roncevaux qui avaient abrité tant de pèlerins avant lui, Arpad s'était enfin endormi, mal partout. Égaré. Depuis son départ de Budapest, Arpad avait pris deux avions pour arriver à Biarritz. De là, trouver un train pour Bayonne, puis un autre pour Saint-Jean-Pied-de-Port. Jusqu'à Biarritz, tout allait bien. Les aéroports, il connaissait, le terrain était familier. Mais après, trouver la gare, le bon train, il s'était senti perdu, ridicule dans ses grosses chaussures de marche avec ce sac sur le dos au milieu de ces gens habillés normalement pour la vie de tous les jours. Puis il avait repéré deux pèlerins avec leur sac et la coquille dessus, et il les avait suivis de loin jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. Là-bas, il était entré dans le premier hôtel rencontré pour se débarrasser de son sac. Le réceptionniste de l'hôtel l'avait accompagné à l'accueil pèlerin, où enfin, face à tous ces gens en chaussures de marche, Arpad s'était senti moins seul. Ici, on parlait anglais et même l'allemand. L'hospitalero lui avait reproché d'être allé à l'hôtel, il y avait de la place à l'auberge. Il aurait pu rencontrer d'autres pèlerins, mais bon. Tant pis, Arpad ne savait pas pour les auberges. Il ne savait pas grand-chose, en fait. Il avait demandé son chemin pour le lendemain matin et l'homme avait répondu « Il suffit de suivre les flèches jaunes jusqu'à Santiago. » Suivre les flèches lui convenait. Le premier matin, à Saint-Jean-Pied-de-Port, il s'était mis en route, mal assuré, le cœur un peu lourd, à se demander ce qu'il faisait là. Le jour n'était pas levé et Arpad n'avait pas repéré les flèches jaunes. Il savait juste qu'il fallait passer le pont, mais après. Alors il avait attendu le passage d'autres marcheurs, qu'il avait suivi un moment jusqu'au jour. Quand le soleil s'était levé, la beauté des montagnes avait évaporé les doutes. Dans son pays, il n'y avait plus de montagnes. Depuis qu'à la fin d'une guerre perdue, des étrangers avaient redessiné les frontières, réduisant la Hongrie à peau de chagrin. Le village où la famille d'Arpad vivait depuis des centaines d'années, au pied de montagnes, peut-être aussi belles que celles-là, était devenu roumain. Il avait fallu tout abandonner. On avait perdu les montagnes, et les montagnes avaient perdu la mer. Depuis, on ne savait plus très bien d'où on venait. Dans les Pyrénées, Arpad pensait à son petit pays, au chagrin, à sa mère, à son enfance. Les souvenirs se cognaient en rafales. Vers midi, il avait atteint une vieille croix de pierre plantée au bord de la route. À cet endroit, les flèches ordonnaient de quitter le bitume pour s'enfoncer dans la montagne par un sentier herbeux. Arpad hésitait, aucun pèlerin alentour pour confirmer. Il s'était arrêté devant la grosse croix décorée de 1000 colifichets, des bouquets de montagne, un foulard de couleurs, des croix en bois mal ficelées, des petits mots sous des pierres, le papier délavé par les jours, des chapelets noués qui dansaient dans le vent. C'était bizarre, ce bazar abandonné au milieu de la montagne, une étrangeté, une surprise. Arpad frémit, un frisson de la nuque aux doigts de pied. Ce drôle d'hôtel, il l'avait déjà vu quelque part. Pas le même, mais presque. Dans la gare de Nyugati, le matin glacial de sa nuit de marche, alors qu'il s'était réfugié auprès de la buvette, il avait vu ce stand coloré, cette boutique de jouets minuscules, surprenante dans le matin, bigarrée et joyeuse, comme égarée dans la ville. Un coup de poing aussi s'est joué qui lui rappelait le pourquoi de son blues. Eh bien, cette croix de pierre décorée de fantaisie, c'était pareil. Une étrangeté plantée au milieu de la montagne, égarée dans le vent. Comme si cette croix, c'était une flèche aussi. Une flèche du chemin. Une flèche jaune déguisée en croix fleurie qui lui faisait signe. Comme la boutique de jouets de Nyugati lui avait fait signe. Et alors, la boutique de jouets, peut-être était-elle aussi une flèche sur son chemin. 8 kilomètres après Laraswania, on croit apercevoir Pamplune, mais en fait c'est un mirage. Mara est épuisée et sent percer une ampoule à son talon gauche, une saleté les ampoules au talon. Elle boite un moment, mais bientôt le chemin va grimper sévère, presque de l'escalade. Pas question de s'abîmer davantage. Alors elle traverse la grande route et s'arrête au pied du sentier en corniche. Elle ôte sa chaussure, ses deux paires de chaussettes et mesure l'ampleur des dégâts. Rien de grave, mais veillez à ne pas trop boiter pour ne pas fatiguer l'autre cheville. Mara colle un pansement, puis un autre, et rajoute une troisième paire de chaussettes. Avale une poignée de fruits secs, une gorgée de jus d'orange, et attaque le sentier qui grimpe. Le crépuscule approche. Elle est seule sur le chemin et ne voit pas la fin de la journée. Elle manque de courage ce soir. Parvenue enfin au sommet, il faut descendre et remonter. Pour la première fois depuis des lustres, la lassitude s'empare d'elle, gagne du terrain à chaque pas, les pieds traînent, l'âme râle, et puis c'est du bitume, c'est pas bon le bitume. Mara marche doucement, essaie de ne pas trop boiter, se hisse sur la pointe des pieds pour apercevoir ne serait-ce qu'une maison, le signe que l'on approche de la ville. Elle marche si lentement qu'Arpad la rattrape, facile, lui n'a pas 800 bornes dans les pattes. C'est ce que Mara lui dit quand il arrive à sa hauteur, tout heureux avec ce sourire immense qui se moque des raidillons, des fins de journée et du bitume. « Hi, Mara !» Mara lui sourit. Oui, elle est de mauvaise humeur et cette histoire d'ampoule l'agace. Mais elle est drôlement contente, en fait, d'avoir de la compagnie, de ne pas finir l'étape seule. Arpad mime son pas de grand-mère bancale. Mara lui rétorque « Tu peux faire le malin, toi ? T'as pas 800 bornes dans les jambes ?» Arpad fait les yeux ronds. « 100 kilometers ?» Alors Mara explique que oui, elle est partie depuis un mois déjà. Arpad n'en revient pas. Il a ralenti son pas pour rester à côté d'elle. Il regarde cette petite femme et il imagine qu'elle a marché cette immense distance. Demande si Pamplune est encore loin. « Pamplune ? » ?»« You want to sleep in Pamplona, Arpad ?» Arpad dit oui, pourquoi pas. Parce qu'on est parti de Roncevaux ce matin, tiens, et que Roncevaux-Pamplune, faut bien compter 40 kilomètres. Comme Arpad ne semble pas voir le problème, Mara répond « Bah, bon courage, hein, moi je m'arrête avant. » Arpad demande « Si je te porte, Mara, je peux faire étape avec toi avant Pamplune ?» Mara s'est arrêtée les yeux froncés. « Si tu me portes. » Alors Arpad fait basculer Mara dans ses bras et il la porte vraiment. Même si avec le sac à dos c'est un peu compliqué et que Mara n'arrête pas de crier et de gigoter. C'est pas grave, elle n'est pas bien lourde. Et quand il la repose, il dit « Mara, je te porterai tous les soirs quand tu seras fatiguée. » N'importe quoi. « I'm serious, Mara. » Et Mara pense « Je sais bien que tu es sérieux, je vois bien. Mais n'importe quoi quand même. » Des semaines que je marche, j'ai pas besoin qu'on me porte, je te signale. Quoique ce soir, tu n'es pas très en forme quand même. Oh, je boitille, rien de grave. Rien de grave, non. Bon. Et si moi je suis fatiguée, Mara, tu me porteras? Parce que je suis moins entraînée que toi, tu sais, si je marche que depuis hier. N'importe quoi. Le lendemain, il pleut sur Pamplune. Et c'est peut-être pour ça, parce qu'il pleut, que Mara et Arpad s'arrêtent dans tous les cafés qu'ils trouvent sur leur chemin. D'abord à l'entrée de la ville, à côté de la halle du marché, où Mara a fait des provisions, une pomme, un demi-litre de jus d'orange, du pain intégral. Et puis un peu plus loin, près de la place de la Casa Consistorial. Vraiment, il pleut, hein. Et dedans, les bars sentent le graillon et l'Espagne. On avale des litres de café. Mara hoche la tête, ses yeux noirs dans ce trait clair d'Arpad. Cette fille l'impressionne. Elle est toute petite, porte de grosses chaussures poussiéreuses, les cheveux en vrac et boit des litres de café sans sucre et sans lait. Elle l'impressionne. Mais il ne veut pas qu'elle parte. Il ne sait pas ce qu'il veut. Ou si, juste, la revoir. Ce qu'il ne faut surtout pas, c'est qu'elle se lève, dise bye-bye, pousse la porte du café et disparaisse sur le chemin dans ce grand pays d'Espagne. Et alors, il la reverra plus jamais. Il veut juste la revoir, rien d'autre, rien de plus. Arpad regarde cette drôle de petite femme qui ne ressemble à aucune femme, enfant, chat, qu'il a croisée dans sa vie. Elle ne ressemble à personne. Elle n'est même pas jolie, elle est spéciale. Mara, c'est la vie triste dans les fêtes, celle qu'Arpad n'ose jamais approcher, celle qu'il regarde de loin en se demandant pourquoi elle est triste. Pourquoi elle est venue à cette fête si elle est si triste? Il la regarde de loin, entourée d'amis et d'autres qui ne sont pas des amis, mais qui sont entre lui et cette fille bizarre, seule au milieu du monde, à qui on pourrait mettre un nez de clown ou une robe de fée, ne changerait rien, lui irait à la perfection parce qu'elle est les deux à la fois. Et aujourd'hui, dans ce bar enfumé qui sent le gras presque autant qu'en Hongrie, elle est merveilleuse, on ne voit qu'elle. Les jours de pluie sont bénis, c'est une fée. Et comme elle a demandé l'addition, Arpad sent que cette fois elle va partir. Alors pour que ça n'arrive pas, pour ne pas la voir disparaître derrière la porte du bar, il dit « J'y vais. J'ai de la route à faire. Ce soir, je dors à Puente la Reina. » Et il se lève. Mara murmure « Bonne route. » Porte sa tasse à ses lèvres et respire profondément l'odeur rassurante du café. Elle sourit. Arpad voit ses fossettes dépasser de chaque côté de la tasse. Ça lui suffit. Il enfile son sac à dos et s'en va.
Le bonheur, c'est toujours pour demain. Et fillette, ne prends pas ma main. Mes doigts ont effeuillé tant de roses que de parler d'amour encore je n'ose. Où sont mes amis qui seront fidèles et ces pays pleins d'odeurs de cannelle? Et toi, mon bel amour, ma tristesse nouvelle, as-tu un cœur de fer sous ton corsage de velours? Y a-t-il quelque part un ruisseau d'eau pure? N'existe-t-il pas cet amour qui dure? Le bonheur est-il bref comme un orage en ciel d'été? Celui qui sait tout ça est homme plus heureux que moi. Le bonheur, c'est toujours pour demain. Et fillette, ne prends pas ma main. Mes doigts ont effeuillé tant de roses que de parler d'amour encore je n'ose. Brûlants sont les mots sortis de tes lèvres, l'eau de tes baisers m'a donné la fièvre. Si un autre que moi dort dans ta chevelure, mes doigts seront serpents, couteaux seront mes dents. Et quand tu t'endors, ingénue divine, la bouche meurtrie contre ma poitrine, ne faut-il pas partir avant d'encore une fois mourir? Celui qui sait tout ça est homme plus heureux que moi. Le bonheur, c'est toujours pour demain. Et fillette, ne prends pas ma main. Mes doigts ont effeuillé tant de roses que de parler d'amour encore je n'ose. Le bonheur, c'est toujours pour demain. Et fillette, ne prends pas ma main. Mes doigts ont effeuillé tant de roses que de parler d'amour encore je n'ose. Loulou, 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 loulou.
Si je ne marche pas. Cette lieue n'en revenait pas. Depuis 3 jours, le nouveau, le gars qui s'était incrusté à Ostaba, le robocoque du chemin, là avec ses mitaines, sa crème solaire et qui tétait sa gourde par un tuyau, la vérité, un tuyau qui sortait de son sac et il le tétait pour boire, le suivait pas à pas. Pour le semer, cette lieue n'avait pas ménagé sa peine, mais rien n'y faisait. L'autre ne décanillait pas. Déjà, entre Ostaba et Saint-Jean-Pied-de-Port, il avait essayé de s'accrocher. Cette lieue avait gardé la distance, mais le nouveau revenait à la charge. Dans les Pyrénées, il ne s'était pas vu, ou alors de loin. Mais dès le soir, à Roncevaux, le nouveau l'avait collé. Il s'était même assis à côté de lui, à table, et rebelote en Espagne. Cette lieue s'occupait de ses chaussures qui lui jouaient de mauvais tours, mais vu le prix d'une paire de pompes neuves, impossible d'en racheter, alors il bricolait. Et Robocop était venu s'asseoir à côté de lui. Il lui avait demandé « Tu viens d'où ?» Pour ne pas l'encourager, cette lieue s'était tue. Il avait juste montré le chemin, les Pyrénées derrière eux. Mais le Parisien ne s'était pas découragé. Il avait demandé « Et tu vas où ?» « Crétin, je vais où ?» Il n'aimait pas trop ces questions, cette lieu. On était en Espagne, loin des emmerdes, mais c'était pas une raison pour raconter sa vie à un étranger. Surtout celui-là, avec son équipement professionnel, on aurait dit un flic. Cette lieu n'avait pas répondu. Mais l'autre était du genre entêté, ou alors il n'avait rien de mieux à faire et avait répété « Tu vas où, cette lieu ?» Le soleil se couchait en face d'eux, c'était l'ouest, alors cette lieue avait montré le soleil et était repartie à ses chaussures. Bruce, vu comment il s'était incrusté, autant se faire de sa présence et l'appeler par son nom, avait souri. Il avait eu l'air content. Il s'était levé et avait disparu dans le village. Cette lieue était soulagée. Ce gars le rendait méfiant. Ils n'étaient pas du même monde. Il n'y avait qu'à regarder leurs chaussures pour en être persuadé. Bruce était revenu avec un pack de bière. Il en avait décapsulé une pour cette lieue et une pour lui. Et il s'était rassis sur le banc, avait sifflé sa bière, ouvert une autre et dit un truc bizarre. Cette lieue s'en souvenait bien. Il l'avait tourné dans sa tête les jours suivants. Bruce avait demandé « Tu connais l'homme des vallées perdues ?» Genre, il cherchait des connaissances communes. Alors cette lieue avait fait signe que non. Et pour être clair, il avait même répondu « Non, je le connais pas celui-là ». Bruce avait encore souri. « C'est toi, cet lieu, l'homme des vallées perdues. » Craignant l'embrouille, cet lieu s'était levé et avait cherché un coin tranquille pour finir sa bière. Le lendemain matin aussi, quand il aperçoit le silhouette de Bruce sur le petit pont qui mène au chemin, il s'inquiète. Il passe devant l'autre sans s'arrêter, là se lâche juste un salut, pas avenant pour dessous, mais faut croire que Bruce le prend quand même pour un encouragement, parce qu'il emboîte le pas de cet lieu, comme si c'était normal. Ils marchent ensemble, sept lieues devant, Bruce trois pas derrière pendant toute la matinée. Sept lieues hâte le pas, mais Bruce est entraîné lui aussi. Il marche depuis un mois, alors il suit la cadence. Et quand sept lieues s'arrête pour pisser, Bruce fait de même. Il veut bien être patient, mais si la ville lui a appris une chose à sept lieues, c'est qu'avec les autres, il faut poser les limites. Alors il les pose. Il dit à Bruce « Dégage, laisse-moi pisser tout seul et marcher tout seul aussi. » L'autre a l'air déçu. Il hoche la tête. « Ok, cette lieu, bon chemin. » Cette lieu repart vite fait, s'en veut d'avoir traité Bruce comme ça. Surtout, il avait l'air triste comme un pauvre chien abandonné. Mais bon, c'était pas si grave. Bientôt, le Breton arriverait. Il était à quelques centaines de mètres derrière. Cette lieu l'avait repéré, il pourrait faire la causette à Bruce, quoique lui non plus n'était pas tellement causant. Tant pis, chacun sa croix. Clotilde avançait vaillamment. Marat avait de l'avance, une demi-journée, et Clotilde ne voulait pas se laisser distancer davantage. Elle savait que la petite ralentirait le rythme pour qu'elle puisse se retrouver. Donc, de son côté, il ne s'agissait pas de traîner, profiter de l'embellie pour faire de grandes enjambées. Une renaissance, après l'épreuve des Pyrénées dont la traversée avait été si pénible. L'effort physique et aussi de se sentir minuscule au milieu de ces montagnes, une poussière, n'être rien du tout en ce monde, juste mortel. Toute la journée, Clotilde avait été éprouvée par ces pensées pénibles qui la renvoyaient au pire moment de sa vie. La force des montagnes lui rappelait sa fragilité et les peurs étaient revenues, portées par le grand vent. Elle avait pensé à son amie Rachel, qui l'avait envoyée sur le chemin. Si Rachel était passée par là, elle aussi pouvait le faire. Et puis, heureusement, Flora et Sophia chantaient. Enrique ouvrait la marche et le Breton la fermait. Clotilde n'était pas seule. Elle avait tenu le coup. Pour la première fois, elle avait guetté, attendu la prévenance maladroite du Breton qui ralentissait quand elle ralentissait, lui faisait des remontrances parce qu'elle avait voulu suivre le chemin plutôt que passer par la route moins éprouvante. En arrivant à Roncevaux, elle lui avait dit merci. Il l'avait fixée d'un air étonné, puis avait soupiré un long soupir. Clotilde n'avait pas précisé. Elle n'avait pas dit « Merci de veiller sur moi depuis des semaines. Aujourd'hui, votre présence a été essentielle. J'avais peur de mourir, mais vous n'étiez pas loin. Et c'est idiot, mais j'avais le sentiment que tant que vous marchiez non loin, rien de grave ne pourrait arriver. Votre présence était comme une antidote à celle écrasante des montagnes. Voyez-vous, alors pour aujourd'hui et les autres jours, merci. » Elle avait juste dit « Merci. » Attablé au-dessus du livre d'or, le Breton gardait les yeux mi-clos. Des semaines qu'il surveillait Clotilde de loin en loin parce qu'il avait deviné chez elle une fragilité familière. Il avait beau rester dans l'ombre, suivre son propre chemin, il gardait un œil sur elle, avait peur parfois qu'elle tombe. Clotilde avait senti sa présence quotidienne et s'en était accommodée. Il était avec elle, aussi peu amène qu'avec les autres pèlerins, mais en quatre coups durs, comme dans la montée de Conques, il était là. Ce n'était pas par altruisme que le Breton assurait cette garde vigilante, au contraire. Il n'en était pas fier, mais c'était ainsi. Clotilde était l'instrument de sa rédemption. Il l'avait compris au cours d'une de ces journées interminables où les regrets lui emmêlaient le cerveau. La première fois qu'il avait vu Clotilde, au sauvage, elle était si pâle, les yeux creusés. Un visage qui lui en avait rappelé un autre. Alors d'instinct, il l'avait suivi, surveillé. Jamais il ne s'était raconté que c'était par bienveillance. Il voyait bien qu'il y trouvait son compte, à être à ses côtés. Alors qu'elle, pas certain qu'elle en était heureuse. Il n'avait rien demandé. Jamais encore elle n'avait fait allusion à sa présence à ses côtés. Et voilà qu'elle lui avait dit merci. Il s'était soudain senti moins vain. Et puis, sur le livre d'or, ce soir, il avait trouvé un petit mot, tracé un an auparavant de cette écriture fragile qu'il connaissait bien. C'est pour cela qu'il avait les yeux mi-clos, pour qu'on ne voie pas qu'il pleurait comme un imbécile, bouleversé, le cœur explosé de remords, parce qu'il était trop tard. Ce soir-là, Robert, Sophia, Flora, Enrique, Mara, Sept-Lieu, Clotilde et le nouveau, Bruce, avaient fait table commune dans un bistrot de Roncevaux pour étrenner leur premier menu del dia. C'est Enrique qui avait remarqué l'absence du Breton. Enrique aimait voir son monde autour de lui et Clotilde avait proposé d'aller le chercher. Après tout, on fêtait la traversée des Pyrénées et l'arrivée en Espagne. Il était assis dehors, sur un mur, en face du dortoir. Il lisait ce cahier bleu qu'on lui voyait pourtant de moins en moins souvent entre les mains. Les jambes dans le vide, son vieux pull noué sur les épaules. Il se laissa convaincre de rejoindre les autres. Le lendemain, Clotilde, désœuvrée depuis qu'elle n'avait plus à s'occuper de Mara, décida de veiller de loin sur cet homme qu'elle ne connaissait pas, mais à qui elle était liée par de drôles de nœuds. Elle aurait voulu comprendre, confirmer ce qu'elle ressentait, mais n'avait aucune idée de comment s'y prendre. Au dîner, elle était prête à lancer la conversation. Mais d'autres Bretons avaient fait halte dans le refuge et ils échangèrent des nouvelles du pays. Exclue de la conversation, Clotilde se coucha de bonne heure. Ce soir-là, dans le jardin du petit refuge de Cizur-Ménor, le Breton, Bruce et Sept-Lieu descendirent des bières. Et le Breton s'amuse de ce voyage en adolescence. Le nouveau est de bonne compagnie, il avance bien, récite des morceaux entiers de pièces de théâtre, raconte des histoires, et quand Sept-Lieu s'en mêle, on passe vite de la tragédie au sketch. Bref, la journée avait filé à toute vitesse. Attends, n'importe quoi, genre le gars là, la Hippolyte, ouais Hippolyte, répète-moi ce qu'il a fait. Il défie en duel un monstre marin, mais en fait, c'est un peu un suicide. Et finalement, il meurt écrasé par les sabots de ses chevaux. Tout ça parce que la meuf de son père, qui n'est même pas sa mère, a voulu coucher avec lui ? Oui, bah il est fou le mec, il t'a raconté des histoires. Bruce sait y faire. Cabotine, ménage ses effets. À la sortie de Pamplune, alors qu'au loin se dessine la Sierra del Perdón et qu'on s'enfonce dans l'Espagne, il se gratte la gorge et, prenant cet lieu à témoin, dit « Mon père, ce héros au sourire si doux, suivi d'un seul housard qu'il aimait entre tous, pour sa grande bravoure et pour sa haute taille, parcourait à cheval, le soir d'une bataille, le champ couvert de morts sur qui tombait la nuit. » Il lui sembla dans l'ombre entendre un faible bruit. C'était un Espagnol de l'armée en déroute qui se traînait sanglant sur le bord de la route, râlant, brisé, livide et mort plus qu'à moitié, et qui disait « à boire par pitié ». Mon père, ému, tendit à son housard fidèle une gourde de rhum qui pendait à sa selle et dit « Tiens, donne à boire à ce pauvre blessé ». Tout à coup, au moment où le housard laissé se penchait vers lui, l'homme en espèce de mort saisit un pistolet qui l'étreignait encore et vise au front mon père en criant « Caramba !». Le coup passa si près que le chapeau tomba et que le cheval fit un écart en arrière. « Donne-lui tout de même à boire, » dit mon père. Le Breton connaît, lui, la légende des siècles, mais pas cet lieu qui s'extasie devant la manséatude hugolienne. « Donne-lui tout de même à boire, » dit mon père. « Ça, c'est puissant. » Et de répéter une petite dizaine de fois sur tous les tons, « Donne-lui tout de même à boire, » dit mon père. Dans le jardin de l'auberge, cet lieu contemple les tortues du bassin. Le Breton écrit et Bruce détaille l'itinéraire du lendemain. Le Breton se sent en vacances. La bande est un petit peu dispersée, mais il est bien avec ses deux gars. Brice a décidé que cet lieu lui plaisait. Il a encaissé jusqu'à ce que l'autre l'accepte. De toute façon, le chemin fait bien des choses. La vie s'applique. Ceux qui doivent se trouver se trouvent. Personne n'y coupe. Cet lieu quitte ses tortues pour prendre une bière dans la réserve de Bruce, qui a pigé comment s'attirer la sympathie du cow-boy. N'empêche, tous les bouquins, ça ne vaudra jamais le soleil quand tu marches, comme aujourd'hui. Quand tu lis, t'es enfermé, t'es pas dehors, tu bouges pas, tu marches pas. Pas du tout, il y a des livres qui voyagent et d'autres qui te disent de partir. Cet lieu regarde Bruce comme s'il avait affaire à un fou. T'es parti à cause d'un livre ? Bruce soupire. Un aviateur se crache dans le désert. Il n'a pas assez d'eau, mais il s'en sort et il écrit un livre. Le livre est dédié à son copain, un aviateur aussi, qui lui s'était crashé en plein hiver dans les Andes. Ce sont des hautes montagnes. Ce copain avait survécu lui aussi et il avait expliqué que pour survivre, il avait dû marcher, marcher, marcher. Et tout seul dans les montagnes, il pensait « Ma femme, si elle croit que je vis, croit que je marche. Les camarades croient que je marche. Ils ont tous confiance en moi et je suis un salaud si je ne marche pas. » Cet lieu regarde Bruce stupéfait. Ce gars est spécial. Il débarque l'air de rien, s'accroche, raconte des histoires sans trop demander, en retour, achète des bières pour tout le monde et soudain, il te balance pourquoi t'es là. Je suis un salaud si je ne marche pas. Parce que c'est exactement ce qu'il ressent, cet lieu. Pourquoi il est là et pourquoi il marche même quand il n'en a pas envie. Je suis un salaud si je ne marche pas. Secoue la tête, reprend ses esprits, ne veut pas que Bruce devine qu'il a tapé juste. Il s'étire comme un grand fauve et parle maintenant de menu du jour et de vin local. Il s'apprête à sortir dans la rue, visiblement avec l'intention de se taper son menu et son vin tout seul dans son coin.
Baiser, vous souvenez-vous que vous m'aviez un jour donné. J'aimerais pouvoir entre nous ce soir vous le restituer. J'avais gardé par devers moi ce souvenir, ce doux trésor, ce présent, ce cadeau de roi, plus précieux qu'un bijou en or. Quand je partais loin de Paris, quand je m'en allais en voyage, je le rangeais dans un étui, bien protégé dans mes bagages. Ce doux baiser que j'ai gardé au bout des lèvres, au bout du cœur, ne m'a jamais, jamais quitté. J'en fus l'unique possesseur. J'ai peur qu'il manque à vos années, mais cependant ardente, voulez-vous le récupérer? Ici toute affaire cessante, ce serait pour moi un délice d'enfin vous le rétrocéder. Il est sur moi, c'est un indice, vous plairait-il de le chercher? Le temps ne m'a pas épargné, cheveux blanchis et cataractes, mais vous en seriez étonné, le baiser lui demeure intact. Ce baiser, vous souvenez-vous, que vous m'aviez un jour donné. J'aimerais pouvoir entre nous ce soir vous le restituer. La 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 la.
Le chemin des oies sauvages. En quittant Pamplune, Arpad s'égare dans les rues grouillantes de monde. Il voudrait être ailleurs, dans la campagne, sur le chemin. Arpad accroche son regard à Zarekegi, village ocre et perché, avec le sentiment que sa présence ici est un miracle, que ce n'était écrit nulle part qu'il foulerait un jour le sol de ces villages paumés d'Espagne, qu'il respirerait l'air de cette sierra. Il n'était pas attendu. Tout au fond de lui émerge une sensation diffuse. Dans sa tête ricoche une chanson de Tom Waits, l'histoire d'un gars qui passe dans une petite ville et arrache une pauvre fille à sa vie de pompiste en route pour Burma Chev. And I guess you'd say I am on my way to Burma Chev. Tout seul au piano, la voix qui fait mine de s'envoler, mais en fait non, se cogne, se casse. On ne s'échappe pas de Marysville. Arpad fredonne et là-haut, tout en haut de la sierra, les éoliennes battent le rythme comme des oiseaux fous. Le sentier grimpe jusqu'à la route de crête. Il pose son sac à terre. L'Espagne s'étend à perte de vue. Des plaines, des montagnes, même dans le loin. Les éoliennes, leurs grandes ailes blanches et le bruit du vent, comme les vols d'oies sauvages du vieux lac. Le vieux lac de Tata, là où Arpad a grandi, peuplé de guinguettes, de canards et d'oies sauvages. Quand elle s'envole, c'est un bruissement fabuleux. Enfant, le livre préféré d'Arpad était Nils Holgersson, parti en voyage avec les oies sauvages. Arpad harnache son sac à dos devant lui, une descente semée de cailloux au milieu des oliviers. Dévale la pente, le bruissement du vent s'éloigne, le souvenir des oies, mais elles le suivront de loin en loin, déguisées en cigognes, en nuages, en éoliennes ou en mouette. Depuis son départ, Arpad pensait à son enfance, pour un oui, pour un non. À mesure qu'il marchait, qu'il devenait pèlerin, le chaos prenait sens, doucement. Le flou se dessinait des contours. Il suivait sa route et la lumière se faisait. Le vieil ordre des choses s'effondrait dans un éboulis de pierres blanches roulées sous ses chaussures de marcheur. Des décennies plus tard, il pouvait enfin suivre le chemin des oies sauvages, déborder les murs et les frontières intimes, prendre la poudre d'escampette et de la hauteur. Vu de la crête d'une sierra, la vie avait plus belle gueule. Arpad parti, Mara reste encore au chaud dans le café de Pamplune. Elle se noie dans l'Espagne, la langue que son père lui parlait, pas exactement la même, presque. Lui, il disait « Huaraca » pour « Huaxara » et « Velacluz » pour « Veracruz ». Il sifflait les sifflantes à se chatouiller les zygomatiques. Mara ne savait pas faire. Elle pense à Arpad, à son drôle de langage. Il l'appelle le « Magyarul », la langue des Magyars. Et Mara n'avait jamais entendu ce mot, ignorait tout à fait que les Hongrois entre eux s'appellent les Magyars, du nom de la tribu venue des forêts ouraliennes. Enfin, on dit qu'on vient de l'Oural, mais en fait, on ne sait pas très bien, probablement au-delà. En disant cela, Arpad avait souri et Mara avait remarqué ses yeux étirés légèrement en amande et avait pensé « Oui, il y a de la steppe dans ces yeux-là. » « En fait, vous êtes un peuple d'envahisseurs. Attila est tout le tralala. Ah, Attila était le chef des Hunoks. Nous, on est les Magyars. Ouais, mais vous êtes des nomades. C'est-à-dire, on avait mangé tout le gibier dans les forêts de l'Oural. Fallait bien qu'on se nourrisse, alors on est venu à l'ouest. Et puis, si on était resté là-bas dans la forêt, Mara, je ne t'aurais jamais rencontré. » Mara grimace. « Enfin, la Hongrie, c'est pas non plus la porte à côté. » Mais on est venu en Provence, en Bourgogne même. En Bourgogne, bien sûr. Les invasions barbares, c'était nous. Toute seule dans le bar, face à la chaise vide d'Arpad, Mara sourit en pensant à cette conversation surréaliste. Arpad semblait ne jamais déborder de son quant à soi, si bien qu'il était impossible de déterminer dans quelle mesure il était sérieux. Par exemple, il avait accroché sur son sac à dos une petite chaussure d'enfant, minuscule, aux lacets rouges. Mara l'avait remarqué la veille déjà, puis de nouveau ce matin, alors qu'il la précédait dans les rues de Pamplune. La petite chose se balançait au bout de son lacet, heurtant la coquille Saint-Jacques incongrue. Mara aurait bien voulu savoir ce qu'elle venait bien faire là, cette chaussure lilliputienne. Elle avait demandé le nez dans sa tasse de café. « Arpad, elle est à qui cette petite chaussure ?»« À moi. » »« C'est au cas où une de mes chaussures me lâche, j'en ai une de rechange. » »« Je l'ai prise petite pour qu'elle pèse pas lourd sur le sac à dos. » Voilà pour la réponse. Faudra faire avec. La pluie s'était arrêtée. Il est temps de marcher. L'étape était belle et Mara s'était sentie pousser une sacrée paire d'ailes. Après Pampelune, elle avait grimpé la Sierra del Perdón à grandes enjambées, heureuse de retrouver enfin une nouvelle route de crête. Au sommet de la Sierra, les éoliennes ressemblaient à de grands oiseaux blancs alignés comme dans le ciel, les vols d'oies sauvages. Silencieux de loin, bruissant à l'approche des pèlerins. Mara s'était souvenue de ce qu'avait raconté Marité, que, dans une vieille tradition nordique, le chemin de Compostelle était appelé « chemin des oies ». D'autres disaient qu'il suivait la voie lactée. Mara pense au blanc des oies et du lait, blanches aussi les pierres qui dégringolent vers le pied de la Sierra. Elle s'assied un long moment sous les éoliennes, respire, ferme les yeux, laisse le courage des prochaines semaines l'envahir. Compostelle est tout proche maintenant qu'elle a fait la plus grande partie du chemin. Elle le sent tout proche. Puis se remet en marche, trébuche dans la descente, traverse un village au volet clos, mouille son front à la naissance de ses cheveux à la fontaine. Elle a semé Clotilde et les autres, voudrait prendre une journée de repos pour les retrouver, mais en attendant, elle marche, le soleil dans le dos. En fin d'après-midi, Mara atteint enfin Obanos, avec son ampoule au talon. La raison voudrait qu'elle fasse halte. Mais elle ne s'arrête pas à Obanos. Écoutez, la raison n'a jamais été son fort. Mais en plus, ce soir-là, c'est pas l'emporte malgré elle vers la sortie du village. Elle décide de pousser jusqu'à Puente la Reina, alors que personne ne l'attend là-bas. Personne ? Personne ? Ah bon ? Et le garçon, tu sais, celui aux yeux pleins de steppes, il a pas dit qu'il dormirait là-bas ce soir ? J'en sais rien, j'ai pas fait attention. Menteuse. La petite voix qui la traite de menteuse, c'est celle de la flée Clochette. Une clochette espagnole, aussi petite et gironde que celle de Peter Pan, mais brune comme une olive et fringuée comme une héroïne d'Almodovar. Tombée d'une aile d'éolienne, elle avait pris place sur le sac à dos de Mara. Mara se laisse porter par la fatigue de la fin du jour, et puis aussi par autre chose. Quelque chose en elle, mais elle sait pas quoi, lui dit « Allez ma vieille, encore 2 bons kilomètres jusqu'à Puente la Reina ». Quelque chose de vague, d'inconnu et de familier, quelque chose comme la chamade, vieux comme l'humanité, mais qui pour elle a déjà l'odeur du petit matin dans la grande plaine hongroise. Peut-être l'évidence, pas la quotidienne, la banale, l'évidence irrésistible qui vous attend au détour d'un village après 1000 kilomètres à pied. Celle qui murmure « Nous y voilà, nous y voilà ». À l'auberge municipale, elle s'écroule sur la chaise en face de l'hospitalero. Les cheveux emmêlés par la transpiration, les chaussures poussiéreuses et épuisées. Fait tamponner sa crédentiale, parle un moment avec l'hospitalero qui la prend pour une fille du cru. Bien sûr, elle est toute noiraude avec ses cheveux comme une ombre sur son visage. Et puis le soleil s'en est mêlé et Mara, au premier rayon, elle brunit. Elle devient toute pain d'épices. Ajoutez-y la poussière d'une journée de marche, la recette est imparable. L'autre lui rend sa crédentiale, aujourd'hui le cello, c'est un pont. Mara se dit qu'elle aurait dû compter le nombre de ponts traversés depuis le Puy-en-Velay. Combien d'hectolitres d'eau a coulé dessous sur les vieux chagrins et les vieilles colères. Elle se lève douloureusement, c'est le problème. À forcer ainsi, les courbatures reviennent, instantanément. Et dire qu'il va falloir monter des escaliers. Voilà qui lui rappelle les premiers jours dans l'Aubrac, la détresse des pèlerins face à la moindre marche, les allures de marionnettes fatiguées quand ils se hissent dans les lits superposés. Mara s'apprête à attraper son sac quand elle voit Arpad débouler dans l'escalier, ouvrir les bras en grand comme s'il l'accueillait dans sa maison, comme s'il l'attendait. Toute fatiguée qu'elle est, elle fait un effort, un sourire pour s'excuser aussi d'être aussi peu présentable. « Tia Mara !» Surtout qu'Arpad, lui, a dû arriver bien plus tôt dans la journée. Il est propre comme un sou neuf. L'hospitalero considère Arpad, les cheveux humides plaqués en arrière, tout de blanc vêtu, short et marcel, un air d'athlète des années 30. Il s'est emparé du sac de Mara et le monte à l'étage. Quand elle sort de la douche, plus présentable que tout à l'heure, Arpad est assis sur un lit dans le dortoir voisin. Il fait mine de lire un guide du chemin, mais Mara voit bien qu'il ne le lit pas vraiment. Alors elle va le voir. « Je vais faire des courses, si tu veux, on peut dîner ensemble. Je vais chauffer une soupe et puis acheter du pain. » Arpad s'est levé. Il est juste immense. Mara doit lever la tête pour le regarder dans les yeux. Il est tout blanc, sa peau est blanche, ses habits tout propres sont immaculés. Et elle, son pull noir, sa polaire grise sur les épaules, son pantalon noir et le tout qui sent le savon de Marseille à plein nez. Le soir, dans son sac de couchage, Mara pensera écrire à Marité sur ce nouveau pèlerin, avec son nom de chevalier du Moyen-Âge, ses manières de gentleman, ses yeux plissés de nomade et son Marcel désuet. Non, ne pas lui écrire, ne rien dire. De toute façon, Arpad marche de grandes étapes. Sûrement qu'elle ne le reverra plus, sûrement. Au matin, Mara émerge avec les bruits du dortoir, range son sac, avale un bol de thé amer et quitte le refuge. Se met en route doucement à cause des courbatures de la veille. La rue piétonne qui sort de la ville est déserte, mais les bars sont pleins. On entend les voix, la télévision, et quand d'aventure la porte s'ouvre, l'odeur du café gagne la rue. Le ciel est bas quand elle passe le pont médiéval emprunté par tant de pèlerins avant elle. Au sommet du pont, elle s'arrête, se penche vers le Rio Arga. Avant, ici, c'était un gué, un passage terrible pour les pèlerins à la merci d'une crue. Mara entend un pas de course sur les pavés du pont. Courir dès le matin avec un sac sur le dos, il n'y a que 7 lieues ou Arpad pour faire un truc pareil. Elle se retresse, bonne pioche. Arpad a un croissant à la main, un croissant espagnol, terrible, recouvert de sucre glace. Mara dit bonjour. Et comme Arpad ne dit rien, juste la regarde en souriant, elle fait la conversation. « Ici, avant la construction du pont, il y avait des crues, beaucoup de pèlerins mouraient noyés. » Alors Arpad, le plus naturellement du monde, « Mais toi, Mara, tu ne te serais pas noyée, je t'aurais portée, tu sais bien. » Et puis il lui tend son croissant, mais là, vraiment, elle ne peut pas. Elle refuse dans un pauvre sourire. Après, les jours suivants, Mara a dans la tête une chanson de ce joli chanteur au visage de la mode Renaissance. Une chanson qui dit « Je t'ai suivi dans les chemins et j'ai attendu qu'on se touche. »
S'il pleut toute la journée, j'ai perdu mes dents de lait, tu sais. Celle qui saignait tout le temps, et j'étais seule, j'en ai pleuré 50 minutes, tellement tu m'as manqué. Jamais téléphoné au petit monde, au temps des colonies, au petit monde, on oublie. Avant je t'ai connu, j'avais le cœur vide, le sais-tu. Je t'ai suivi dans les chemins, j'ai attendu qu'on se touche. Au petit monde, au temps des colonies, au petit monde, on oublie. J'ai rencontré à l'endroit de mes rêves, là où finit la grève, pas oser te parler, juste rêver à tes lèvres, toute une vie. Petit monde, autant de colonies. Petit monde, on oublie.
Eh bien, merci Catherine, merci Hervé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour écouter la suite du Vestibule des causes perdues et retrouver tous ces personnages qui marchent. À la semaine prochaine !